Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Mater Radio, un rendez-vous mensuel proposé par l'Institut Chevreul, une fédération de recherche sur la chimie et les matériaux qui donne la parole aux doctorantes et aux doctorants de ces laboratoires. Une émission présentée par moi-même, je m'appelle Elisa Després et je suis chargée de médiation scientifique pour cet institut. Aujourd'hui, on va parler de la création de nouveaux matériaux et pour traiter ce sujet, je suis en compagnie de Michel Zemmaud. Bonsoir Michel.
Bonsoir Elisa.
Tu es doctorante en troisième année à l'Université de Lille au sein de l'UMET, l'unité des matériaux et transformations. Ton sujet de thèse s'intitule « Mise en forme par frittage flash de composite co-continu UHMWPE métal de l'élaboration à la caractérisation ». On y est arrivé.
Oui, c'est bien ça.
Est-ce que tu peux nous expliquer déjà un peu ta thèse en quelques mots ?
Oui, bien sûr. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon sujet de thèse, il s'inscrit dans le cadre d'un projet nommé Armure, qui est un projet financé par l'Agence nationale de recherche, et dont le but, c'est de développer de nouveaux matériaux composites co-continus qui vont finalement associer la légèreté et la ductilité d'un polymère en particulier avec la rigidité d'un métal, et ceci par une approche innovante appelée frittage flash. Je sais que les concepts de rigidité et ductilité sont des concepts qui ne sont pas souvent familiers à la plupart des personnes. Donc pour imager cela, on va par exemple prendre l'exemple des spaghettis. Donc on va prendre deux spaghettis, un spaghetti cru et un spaghetti cuit. Donc quand vous prenez le spaghetti qui est cru et que vous appuyez dessus légèrement, donc vous voyez qu'il va résister. Mais si vous forcez, il va se casser. Donc le spaghetti cru, il est rigide. À l'inverse, un spaghetti cuit, lui, il va pouvoir se plier, donc se déformer dans tous les sens, et ce, sans se casser. C'est ce qu'on appelle la ductilité, qui est finalement cette capacité à se déformer. Le but de ma thèse, c'est donc de créer un nouveau matériau qui va combiner ces deux propriétés-là, donc ductilité et rigidité, qui, a priori, sont contradictoires.
Et donc, quel est l'intérêt de créer des nouveaux matériaux pour la performance, peut-être ?
Eh bien, déjà tout simplement parce que le besoin, il évolue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut créer de nouveaux matériaux qui sont beaucoup plus performants que ceux qui existent déjà. Donc, ça peut être pour des propriétés mécaniques, hein, mais ça peut être pour plein de choses, donc des propriétés thermiques, électriques. Mais comme je vous ai dit, dans mon cas, ce sera essentiellement pour des propriétés mécaniques. Mais en amont, ça peut vraiment aussi être en termes de performance, de procédés d'élaboration. Donc aujourd'hui, on veut fabriquer des matériaux qui, par des voies qui vont être moins énergivores que les procédés qui existent aujourd'hui. Surtout qu'on est dans un contexte où on parle d'économie d'énergie. Donc du coup, c'est pour toutes ces raisons qu'on crée des nouveaux matériaux tous les jours.
Et alors, tu mélanges donc un certain type de polymère avec un métal. Alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un polymère et quel type de polymère tu utilises ?
Oui, donc un polymère, on va dire qu'un matériau polymère, c'est un matériau qui est constitué de chaînes macromoléculaires avec des unités de répétition, avec des unités qui se répètent. Donc il faut le voir comme un collier de perles où chaque perle finalement est une unité de répétition. Donc dans le cadre de ma thèse, j'utilise un polymère particulier qui s'appelle le polyéthylène à ultra haut poids moléculaire. Donc ce qui va le distinguer, c'est le fait qu'il a, comparé aux autres polymères, de très longues chaînes macromoléculaires. Donc si je reprends mon exemple du collier de perles, le collier il va être très très long. Donc vous imaginez que si dans mon matériau, j'ai plusieurs longs colliers et que j'arrive finalement à les attacher, donc les uns avec les autres, je vais pouvoir faire une chaîne qui va être bien résistante, genre comme une corde d'escalade par exemple. Mmh. C'est pour ça que ce polymère en particulier, il va avoir de très bonnes propriétés de ductilité, de résistance à l'usure et même de résistance au choc. Et d'ailleurs aujourd'hui, il est déjà utilisé dans plein d'applications. Hein. On l'utilise par exemple pour faire des gilets pare-balles, des plaques balistiques et même des prothèses de hanches ou de genoux dans le domaine biomédical. Okay. Donc c'est pour ça que nous, on utilise ce polymère-là.
Ok, et du coup, du côté du métal, est-ce que tu utilises un certain type de métal ?
Alors, pour le métal, là pour l'instant, on est parti sur de l'aluminium, qui finalement est un métal léger, mais qui a plutôt une bonne rigidité par rapport au polymère.
Ok, et pourquoi mélanger ces deux éléments du coup ?
Justement, parce que mon polymère, malgré qu'il ait de bonnes propriétés de résistance à l'usure, de bonnes propriétés de résistance au choc, ça reste un polymère, c'est-à-dire qu'il est souple. Tandis que mon métal, il est rigide, mais manque de ductilité. Du coup, en combinant intelligemment les deux, on pourra avoir un matériau à la fois rigide, ductile et léger.
Et alors, pour ce matériau que tu es en train de créer, quelle sera sa potentielle application ?
Alors, ces types de matériaux vont être utilisés dans des environnements qui sont soumis à des fortes contraintes mécaniques. Par exemple, ce serait pour faire par exemple, des hélices d'avion, par exemple, ou même des hélices de bateau, et même pour faire des prothèses, comme je vous disais, dans le domaine du biomédical.
Et est-ce qu'il y a des limites pour sa création aujourd'hui ?
Ah oui, il y en a. Oui, il y en a parce que mon polymère, j'ai dit qu'il avait de très longues chaînes macromoléculaires, ce qui fait sa force. Mais ces longues chaînes macromoléculaires limitent aussi sa mise en forme dans la mesure où il va être très visqueux. Donc si vous le chauffez, il va rester très visqueux. Quand je parle de viscosité, par exemple, l'eau, je prends de l'eau, je prends du miel. Le miel, on se rend bien compte qu'il est plus visqueux que de l'eau. Donc mon polymère, moi, quand je le chauffe, il va être 100 000 fois plus visqueux que du miel. Sachant qu'aujourd'hui, pour la plupart des polymères, pour les mettre en forme, c'est-à-dire leur donner une forme, il faut rendre le polymère liquide et le mettre dans un moule. Sauf que si je n'arrive pas à faire couler mon polymère, je ne peux pas lui donner une forme. Donc c'est cette limite qui complique vraiment le travail.
Et justement, est-ce que tu as trouvé un moyen pour contourner cette limite ?
Oui, donc on va dire merci aux métallurgistes parce qu'ils ont s'inspiré d'un procédé, donc ils utilisent beaucoup qu'on appelle le frittage. Donc c'est quoi le frittage ? En gros, on va venir chauffer les poudres de polymère, donc de façon à ce que sur le plan microscopique, on va donner de la mobilité aux chaînes dont je vous parlais précédemment. Ces chaînes vont donc se mouvoir et venir s'attacher entre elles, ce qui va permettre de consolider le matériau.
Ok. Du coup, tu fais des tests sur tes échantillons. Quel type d'appareil tu utilises pour faire ces tests ?
Donc déjà, avant de faire les tests sur mes appareils, donc parler de la mise en forme déjà, on va utiliser plusieurs outils. Pour quand on chauffe, par exemple, mon matériau, il faut suivre l'évolution de la température. Donc pour faire ça, par exemple, on va utiliser une caméra thermique infrarouge. Ensuite, pour comprimer le matériau, on va utiliser une machine de compression qui va venir appliquer une pression sur le matériau. Et après, pour faire des analyses microstructurales, on va utiliser des appareils comme des tomographes à rayons X et du microscope.
Ok. Ouais. Donc, on l'a dit, tu réalises des échantillons.
Ouais.
Quelle est la procédure pour créer ces échantillons ?
Ok. En fait, si vous me suivez déjà jusqu'ici, je vous ai dit... la solution qu'on a trouvée pour le polymère. Mais jamais je n'ai parlé finalement de la phase métallique, comment je l'incorpore à mon polymère. Donc là, on s'est dit, OK, il faut qu'on chauffe le polymère, mais comment on va le combiner au métal ? Et du coup, là, on se dit, on va faire des architectures métalliques, donc des matériaux architecturés. Donc des matériaux architecturés, il faut le voir comme des matériaux en 3D qui ont des petites unités de répétition qui se répètent de façon régulière. Dans la vie de chaque jour, par exemple, les nids d'abeilles, c'est des matériaux architecturés. Les alvéoles, une alvéole 2, par exemple, c'est un truc architecturé. Et même des gaufres, en fait, où vous avez des petits cubes qui sont adjacents les uns avec les autres. Donc, on se dit, on va faire un matériau architecturé dans lequel on va venir verser de la poudre de polymère. Puis, on va compacter. Donc, à ce moment-là, on obtient un composite, mais qui mécaniquement n'a pas encore de propriété. Parce que mon polymère, il n'est pas encore attaché. Les grands polymères ne sont pas encore attachés les uns avec les autres. Il se pose la question de chauffer. Comment est-ce qu'on va chauffer mon polymère pour qu'il puisse, les chaînes puissent s'interpénétrer. Donc là, on s'est dit, on va utiliser un champ magnétique pour chauffer très rapidement. Comment ça fonctionne ? Donc, on a de la chance que le renfort ici, c'est un métal. Donc, c'est un matériau qui va être conducteur, un peu comme nos casseroles à la maison, avec les plaques à induction. Donc, on va pouvoir le soumettre à un champ magnétique. De la chaleur va se produire au sein de la phase métallique et celle-ci sera transférée au polymère par conduction thermique qui va permettre aux chaînes de s'interpénétrer et de former un matériau consolidé. C'est ainsi qu'on obtient de composites.
Et justement, combien de temps ça prend pour créer ces échantillons ?
Oula ! Entre la fabrication des architectures métalliques, le remplissage, la compaction, on va aller sur du 5 jours en moyenne.
Ok. Ouais. Et jusqu'ici, est-ce que tu en as fait beaucoup d'échantillons ?
Ah ouais, j'en ai fait un bon paquet. Hein. Là, je pense que j'en ai fait un peu plus de 100.
Ok.
100 échantillons, ouais.
Pas mal. Et, alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un équivalent à ce nouveau matériau dans le sens application ?
Je dirais oui et non. Oui, parce que les polymères, les composites type polymère métal, ça existe déjà. Mais vous allez souvent les retrouver sous forme de nanoparticules métalliques qu'on a versées dans une matrice. Par exemple, c'est un peu comme si vous preniez des pépites de chocolat que vous versez dans une pâte à cookies. Sauf que vous ne contrôlez pas la dispersion, vous ne contrôlez pas où vos chocolats y vont. Donc ça, c'est la première limite. Vous pouvez les retrouver aussi sous forme de structure en sandwich. Donc où vraiment, vous venez déposer une feuille métallique sur une feuille polymère. Sauf que y a des risques de décollement. Donc les deux feuilles peuvent se décoller. Et moi, ce que je fais de différent par rapport à ça, c'est que je fais un composite qui va être co-continu. C'est-à-dire que mon polymère, il est continu. Ma phase métallique, elle est continue, et les deux phases vont s'interpénétrer. Et ceci devra permettre normalement d'améliorer les performances mécaniques par rapport à ce qui existe déjà.
Et alors physiquement, à quoi ressemble ce nouveau matériau ?
Alors donc mes matériaux aujourd'hui se présentent sous la forme de cylindres qui font 2 cm d'hauteur sur 2 cm de diamètre. Et si vous regardez par-dessus, vous pouvez distinguer de façon vraiment nette la phase métallique, donc brillante, et la phase de polymère, toute blanche et opaque en son centre.
Et pourquoi cette taille ?
On a cette taille aujourd'hui parce que au départ, on était limité finalement par la dimension du moule qui nous était accessible au laboratoire.
Donc ça pourrait être plus grand ?
Oui, ça pourrait être beaucoup plus grand.
Donc là, on parle à l'échelle d'un laboratoire. Mmh. Comment ce projet pourrait être commercialisé ?
Alors, pour commercialiser ce projet, je pense que déjà, il faudrait... L'industrialiser, je vais y arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà rendre le procédé de fabrication un peu plus rapide et surtout l'adapter à des pièces beaucoup plus grandes en taille, en dimension réelle d'utilisation. Donc, mais les bases, elles sont déjà là. Hein, donc, si les performances se suivent après, je pense qu'il y aura plein d'industriels qui seront intéressés.
toujours dans ta recherche, une fois que l'échantillon est fabriqué, qu'est-ce qui se passe ?
Alors, donc, une fois qu'on a fabriqué l'échantillon, la prochaine étape, c'est la caractérisation. Donc, première des choses, j'ai rempli a priori mes cavités de la structure métallique avec le polymère. La première des choses, est-ce qu'il y a des trous ? Donc, pour faire ça, pour savoir s'il y a des trous, on va par exemple prendre des mesures géométriques de nos dimensions et calculer des densités pour savoir à quel point mon polymère il est compacté dans ma structure métallique. Une fois qu'on a la réponse, on va se dire s'il y a des trous, où est-ce qu'ils sont localisés ? Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une analyse microstructurale en tomographie rayon X. Donc, on va envoyer un rayon X dans l'échantillon pour pouvoir reconstruire son volume et aller checker où sont situées les porosités. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on va aller tester ce qui nous intéresse, les propriétés mécaniques. Donc on va appuyer et sur la structure métallique toute seule, appuyer sur le polymère tout seul et appuyer sur le composite pour effectivement analyser les différences de comportement entre les trois matériaux.
Et justement aujourd'hui, les résultats de ces observations ?
Les résultats sont très prometteurs dans la mesure où finalement on arrive à obtenir un matériau composite qui se comporte exactement comme on voulait, c'est-à-dire qu'il y a une très bonne rigidité et qu'il y a une ductilité excellente.
Parfait, merci Michel pour ces premières réponses. Je vous propose maintenant de faire une petite pause musicale avec le morceau que Michel a choisi, c'est Coucou de Charlotte Dipanda.
Mapata mangoso e kungula nesaka atiti na bambele wa muna na binona otiti na owele embeso mulema mongo minyama bwa menge ya na mapula na ubie na niwa kukuo Mapula na obie na newae Kukuo newae Na mapula na obie na newae Kukuo newae Na mapula na obie na newae Kukuo Je suis là Janane mundi mwese Sonite sebe longi sane babila Nendeke mune e mapape Jeye sebo mane nonge yae Nasi mende toka ise wae Tobunya wamene obi nika I know you can understand me Minya mabwa menge ya Na mapula na ubie na newa Kukuo newae na mapula na obie na newae kuku o newae na mapula na obie na newae kuku o newae na mapula na obie na newae kuku o newae.
De retour pour la deuxième partie de cet épisode de Maté Radio sur Radio Campus. Je suis toujours en compagnie de Michèle, une doctorante de troisième année. Alors, on vient d'écouter Coucou de Charlotte Dipanda. C'est Michèle qui avait choisi cette chanson. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce morceau ?
En fait, j'ai choisi cette chanson parce que c'est une musique très douce. Et je trouve qu'après avoir ingurgité toutes les informations qui ont précédé, il fallait un peu de douceur.
Je te propose maintenant qu'on revienne un peu sur ton parcours et tes motivations qui t'ont amené à faire de la recherche. Quelles études as-tu suivies ?
Alors, j'ai obtenu un bac scientifique donc à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun, donc d'où je suis originaire, à l'issue duquel j'ai fait une licence en physique fondamentale, puis un master 1 en sciences des matériaux. À l'issue de mon master 1, j'ai obtenu une bourse d'excellence qui m'a permis de venir ici, à l'Université de Lille, pour faire un master 2. Et après quoi, j'ai continué sur une thèse de doctorat, ce qui m'amène ici.
Pourquoi tu as décidé de venir à Lille ?
J'ai décidé de venir à Lille parce que quand j'ai obtenu la bourse, j'ai su qu'il y avait déjà plein de Camerounais avant moi qui étaient déjà passés. Je me suis renseignée, je trouvais que Lille, c'était une ville... pas trop grande, pas trop petite, le juste milieu pour des études. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire venir à Lille.
Donc aujourd'hui, tu travailles dans le domaine de la science des matériaux. Pourquoi tu as choisi ça ?
J'ai choisi la science des matériaux parce que, pour moi, les matériaux, c'est l'avenir. Les matériaux sont au cœur de l'innovation technologique. Et c'est dans le but de vouloir contribuer donc, dans l'avancée de ce domaine-là que je me suis dit, il faut que je fasse des matériaux.
Et tu as toujours voulu faire de la recherche ?
Alors, est-ce que j'ai toujours voulu faire de la recherche ? Je dirais oui, mais à la base, je pensais que ce serait en médecine. En fait, je vais raconter une petite histoire. C'est que quand j'ai eu mon bac, j'ai tenté le concours de la médecine, mais je ne l'ai pas eu. Et là, il se posait la question de choisir la filière que j'allais faire en fac. Et comme je n'avais pas eu une bonne moyenne en physique, et que j'étais très déçue de moi, mon cher papa, il m'a dit « Je pense que tu es très calée en physique, va faire physique à l'université pour te prouver à toi-même que tu en es capable. » Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée m'inscrire en physique. Et en cours de route, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup la physique parce que c'est cette science-là qui explique finalement des phénomènes très complexes, pas des lois physiques qui sont assez simples. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit, je vais continuer dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire finalement un doctorat en physique sur des matériaux.
Et tu ne regrettes pas de ne pas travailler justement dans le domaine de la médecine ?
Non, pas du tout finalement, parce que la science des matériaux nous permet de faire un parallèle entre tous les domaines. J'ai dit que je fais des matériaux composites qui pouvaient même s'appliquer dans le domaine de la médecine. Donc finalement, d'une façon ou d'une autre, si je suis toujours intéressée, je pourrais travailler dans ce domaine-là à travers la science des matériaux.
Et alors quotidiennement, comment se déroule ton travail ?
Alors, mon travail, il est très diversifié. Donc, évidemment, il y a une grosse partie expérimentale, donc entre la fabrication et la caractérisation de mes matériaux. Il y a une grosse partie analyse de données aussi. Analyse de données, modélisation, rédaction aussi. Il y a aussi une partie, réunion, donc on va dire réunion mensuelle entre discussions, donc entre les directeurs des thèses, donc pour discuter de l'avancée du projet, des hypothèses, de ce qu'on fait après. Il y a une partie encadrement aussi, parce qu'on a la possibilité d'encadrer des stagiaires et même de donner des enseignements à l'université, chose que j'avais bien aimé d'ailleurs. Mais surtout, il y a la partie fou rire avec les collègues, ce qui est très intéressante.
Est-ce que tu as une préférence du coup dans ton travail ?
Oui, moi je préfère le travail expérimental parce que moi j'aime bien toucher les trucs, j'aime bien voir comment le matériau il se comporte sous des sollicitations.
Alors tu es en dernière année de doctorat, est-ce que tu peux nous faire un peu un bilan, comment ça s'est déroulé ces dernières années ?
Alors globalement, je dirais que ces trois dernières années étaient globalement très bien, mais avec des hauts et des bas, comme toute thèse j'imagine. Donc il y a eu des moments de doute, d'interrogation, de remise en question, mais il y a aussi des moments de réussite, de découverte et d'avancée. Et surtout, c'est le côté humain que je préfère aussi en thèse, dans la mesure où on rencontre plein de gens, on fait beaucoup de rencontres, on se crée un réseau, et ça fait que l'expérience de thèse était magnifique. Donc on va dire que c'est un parcours exigeant, mais qui est très formateur.
Mais alors comment ça fonctionne la fin d'un doctorat ?
La fin d'un doctorat, finalement, ça consiste à, finalement regrouper donc toutes les analyses faites jusqu'ici, donc toutes les données, les analyser et surtout essayer de construire une histoire cohérente sous forme d'un manuscrit et à la fin se préparer à soutenir sa thèse devant un jury.
Pas trop stressé ?
Un peu, mais bon, ça devrait aller.
Et concernant le projet, du coup, est-ce qu'il va avoir une continuité ? Est-ce que quelqu'un va reprendre le projet ?
Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, un sujet de thèse, j'ai envie de dire, il finit jamais. C'est-à-dire qu'au début, on a plein d'idées qu'on a envie de tester, on a plein de choses qu'on a envie de faire, mais parfois, faute de temps, on n'arrive pas à le faire. Donc, ce qui était le cas dans ma thèse. Donc, je suppose qu'après moi, peut-être que mes directeurs, soit ils vont continuer sous forme de post-doc, soit, sous forme de projet d'ingénierie, de recherche. Mais il y a de quoi faire pour la suite, quoi.
Et justement, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire après ?
Moi, pour la suite, je pense que je vais continuer dans la recherche et le développement, mais plus m'orienter côté industrie, parce que j'aime bien ce côté applicatif. J'aime bien faire un truc pour une application directe.
Tu as déjà des pistes d'un domaine en particulier ?
Oui, donc j'ai resté dans le domaine des matériaux, bien évidemment, mais ce serait appliqué à l'industrie aéronautique, par exemple, ou l'industrie biomédicale.
Ok. Ouais. Pour finir, quel conseil donnerais-tu à un jeune qui serait intéressé pour faire de la recherche ?
Alors, donc déjà, si un jeune veut faire la recherche, moi je lui dirais, déjà il faut être curieux, il faut être passionné, il faut avoir envie de comprendre les choses en profondeur et il faut avoir de la résilience. Parce que, comme je l'ai dit, la thèse, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des moments où on va se remettre en question, il y aura des moments où on va s'interroger. Mais moi, je dis, au final, c'est ce qui fait que l'expérience en vaut la peine. C'est ce qui fait qu'à la fin, on est content d'avoir ce doctorat-là. Donc, pour un jeune qui veut poursuivre en recherche, moi, je lui dirais, vas-y, fonce, et puis à la fin, tu ressortiras forcément plus fort que tu ne l'es déjà.
Et comment on ressort justement de ces moments où on doute, où on remet en question tout son travail finalement ?
Moi, en ce qui me concerne, c'est en s'ouvrant aux autres, parce que finalement, on n'est pas seul doctorant, on est entouré de plein de doctorants, et c'est important d'aller vers l'autre et de comprendre ce que l'autre vit, et de te dire que, en fait, tu n'es pas le seul avoir vécu ça, et même de se tourner vers des personnes qui sont déjà passées par là, de se dire qu'elles sont passées par ces mêmes moments d'interrogation que toi, mais finalement elles s'en sont sorties. Donc pourquoi pas toi ? Donc vraiment aller vers les autres et puis essayer de se motiver.
Tu nous dis qu'on n'est pas seul quand on est doctorant, justement, il y a des clubs faits pour justement rassembler.
Oui, il y a par exemple l'association des doctorants. Donc ça, c'est un truc qui commence à être vraiment actif depuis un an. Donc ça permet aux doctorants de se rencontrer dans un contexte hors laboratoire. Et ce qui fait que les gens ils sont beaucoup plus ouverts à raconter ce qu'ils vivent au quotidien.
Très bien. On va s'arrêter là. Merci Michel pour toutes ces réponses. On se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine Mater Radio. Bonne soirée à toutes et à tous.
Merci.
Il s'appelle Bruce Springsteen et il était à Lille, enfin à Villeneuve-d'Ascq, hein, au grand stade Villeneuve-d'Ascq, au Stadium. Alors pour ceux qui ont eu des problèmes de métro, c'est très dommage. Enfin, il y en a qui en ont quand même bien profité, grand Bruce Springsteen. Maybe once I thought I knew everything I needed know about you, your sweet whisper, your tender touch. écoutez Radio Campus Lille 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Voilà, vous écoutez Radio Campus Lille bien sûr, à l'émission Quoi de Neuf jusqu'à 18h, et je vais en profiter après cette, on va dire, incursion de la recherche dans cette émission. On va poursuivre avec l'industrie de la recherche. À l'industrie, il y a souvent des passerelles, et donc on va parler de deux entreprises aujourd'hui que j'ai retrouvées lors d'un, on va dire, pas congrès, non, un rassemblement d'entreprises, une opération qui s'appelle ou qui s'appelait Viva Fabrica, qui a lieu en France, mais qui s'est passée à Lille cette année, en février. Donc j'ai retrouvé ce qu'il fallait fouiller, parce que c'était pas facile, un petit parcours du combattant entre les communicants et les gens qui savent. Donc l'occasion de retrouver deux personnes là. L'une, c'est le responsable d'une entreprise qui s'appelle Maguin. et donc qui fabrique des appareils hein, en lien avec la production betteravière. Donc on est dans le concret, le vécu de cette personne qui est vraiment très intéressante à écouter. Enfin, je vous laisse juger. Et puis la deuxième personne que j'ai trouvée qui était intéressante, c'est un des techniciens de Nedis. On ne connaît pas toujours l'envergure de cette entreprise de service public qui exploite, modernise et dépanne le réseau électrique en France. En tout cas, je pense que ça valait le coup de définir un petit peu ses contours et puis voir son rôle, notamment dans la transition écologique. Alors, rien n'est parfait, mais Arnaud D, qui est chef de pôle au service technique de Nedis, lui, il est carrément bien. Alors, je vous laisse écouter ces deux sujets.
Alors, l'entreprise Maguin est une entreprise qui travaille pour l'agro-industrie et pour l'industrie sucrière. Nous fabriquons des ensembles et des lignes pour l'industrie sucrière, Tereos, Cristal Union. Nous sommes spécialistes dans la fabrication de tubes tournants et de machines pour l'agro-industrie et l'industrie sucrière.
Comment vous voyez l'évolution technologique dans les entreprises, notamment dans votre domaine ?
Alors, on est sur un domaine de niche. Les évolutions sont plus des évolutions pour fournir à nos clients des matériels avec moins de consommation d'eau, moins de consommation d'énergie électrique et autres. Nos matériels resteront toujours, sur la majeure partie du temps, en termes de forme, la même chose parce que l'utilisation est toujours la même. Mais par contre, c'est vraiment essayer d'apporter à nos clients des matériels qui vont aller dans le sens des économies d'énergie et de tout ce qui est eau, électricité et qui sont les sujets importants aujourd'hui.
Donc on peut peut-être parler de quelques-uns de vos matériels et des matériaux qui les composent.
Donc on a principalement des tubes tournants, on est spécialisé, on est une chaudronnerie, de la grosse chaudronnerie, puisque on travaille des tôles avec des épaisseurs de 45 à 50 mm. Et donc on fait des tubes tournants, spécialistes de tubes tournants, qui peuvent faire jusqu'à 5 mètres de diamètre, 20 à 30 mètres de longueur. Et donc, on part de tôles plates pour fabriquer ces ensembles qui sont, d'un point de vue technologique, assez développés, puisqu'on doit faire tous les calculs de résistance pour les soudures. Et ce sont des matériels qui vont durer très longtemps, puisque un tube va être chez le client pendant des dizaines d'années.
Alors, ça sert à quoi qu'il tourne ?
C'est pour transporter les betteraves. On envoie au niveau des lavoirs, on envoie de l'eau. On a un système d'hélice à l'intérieur qui va permettre, en tournant, de faire avancer les betteraves dans le flux de production de nos clients.
D'accord. Donc voilà pour la partie technique. Alors je vois une belle affiche là, l'humain au cœur de l'industrie. Alors pas forcément vous, mais est-ce que vous jugez que l'industrie, qui était quand même considérée comme inhumaine du temps de Zola, et même après, hein, est devenue ou devient ou cherche à devenir humaine, plus humaine tout, en tout cas.
Alors l'industrie cherche à devenir plus humaine, mais on aura toujours des métiers, entre guillemets, difficiles, où on ne pourra pas remplacer l'homme, et c'est bien l'homme par la machine. Mais ce qui est important, à mon sens, aujourd'hui, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est pas forcément mettre une salle de repos, mettre un baby-foot. C'est aussi mettre nos collaborateurs dans les meilleures conditions et considérer nos collaborateurs.
Quelle est la durée, on va dire, dans votre entreprise correcte pour que quelqu'un puisse être allégé dans ses fonctions ? Est-ce qu'on peut travailler dans votre entreprise jusqu'à 64 ans raisonnablement, par exemple ?
Sur certains métiers, oui. Sur les métiers de production, qui sont quand même des métiers difficiles, On a eu des collaborateurs qui ont eu des problématiques de santé, de dos, de voilà, et on a trouvé les solutions pour qu'ils puissent continuer à travailler. J'avais un chaudronnier, un soudeur qui avait des problèmes de santé, problèmes de dos, problèmes de vieillesse du corps, et je les ai utilisés comme formateurs pour transmettre ce qu'ils avaient appris pendant des années à tous les jeunes que l'on prend en apprentissage. Et donc ils étaient payés, continuaient à être salariés de l'entreprise. Plutôt que d'être en arrêt de travail, on les a utilisés comme formateurs et ils ont apprécié cette façon de faire et de pouvoir transmettre leur métier.
Donc votre entreprise est basée où ?
Elle est basée dans l'Aisne, entre Saint-Quentin et Laon.
Alors, on ne connaît pas l'Aisne comme une grande région industrielle. Pourtant, il y a pas mal d'entreprises que je vois et qui sont dans l'Aisne, par exemple.
Alors, beaucoup de TP, beaucoup d'entreprises, on va dire, petites et moyennes entreprises. Alors, c'est sûr qu'on est sur une région plutôt agricole, mais il y a quand même quelques entreprises. Et l'entreprise Maguin, qui a plus de 100 ans, est l'une des images que l'on peut avoir des entreprises de l'Aisne avec des entreprises qui sont là depuis longtemps.
Quel est le secret de la longévité, sinon de la durabilité ?
Alors, sûrement un marché de niche, parce que on travaille sur le sucre et en Europe, on n'est pas nombreux à travailler pour les sucriers, donc on est quelques-uns. Donc, quelque part, le marché n'est pas. Il est difficile, mais pas un point tel où on peut du jour au lendemain se retrouver à mettre la clé sous la porte. Mais aussi parce qu'il y a un savoir-faire. Et ce savoir-faire a été développé et accentué au fur et à mesure des années et toujours fournir à nos clients un service, un produit de qualité et toujours être auprès de notre client parce que c'est aussi lui qui nous fait vivre et qui nous fait durer.
Vos solutions, vos objets, là, tels que je les vois là, est-ce qu'ils ont des brevets qui vous appartiennent ?
Alors, on a peut-être des brevets, mais je sais qu'on a des fois des gens qui ne sont pas fabricants et qui font de la réparation de nos matériels, de la copie, entre guillemets, et on n'a pas toujours tous les brevets nécessaires.
Est-ce que vous avez besoin de chercheurs et dans la recherche-développement ?
On a une orientation au niveau du groupe pour aller sur la recherche et le développement. Mais c'est pas juste décider de mettre de la recherche et développement. Il faut que l'on ait une orientation et pas partir dans tous les sens. Et ensuite, structurer progressivement ce service recherche et développement.
Toujours quelques sons captés lors de cet événement qui se passe à Lille chaque année, mais qui est plutôt un salon dédié à la proposition d'emploi, donc des entreprises qui cherchent des salariés, plutôt qu'à la vulgarisation technique, scientifique. En tout cas, j'ai trouvé une autre entreprise qui avait, à mon sens, à dire sur la technologie utilisée, ce qu'elle réalise en France et éventuellement à l'extérieur. En tout cas, c'est une grande entreprise qui mérite sans doute d'être connue. Et ça s'appelle Enedis. Donc, quand on voit Enedis, on ne sait pas trop. C'est une filiale, enfin, c'est une des composantes de EDF, etc. Donc voilà, on va voir un petit peu son rôle et comment Enedis se développe au service, on va dire, d'un public qu'il considère, la personne que j'ai interviewée, Arnaud D, considère comme un service public. C'est quand même une belle chose encore.
Bonjour, je m'appelle Arnaud Desbouvry et je suis chef de pôle au service TST-HTA de chez Enedis.
Enedis, c'est une grande société. Peut-être qu'on pourrait faire un petit bilan, un petit point sur comment fonctionne l'ensemble du réseau électrique en France et la place des acteurs.
Alors Enedis est le distributeur de distribution publique d'électricité aujourd'hui. Donc nous nous occupons de toute la partie distribution, pose de câbles pour le nouveau raccordement, renouvellement des câbles et aussi exploitation du réseau existant pour alimenter nos clients et leur garantir une qualité de fourniture.
Qui produit l'énergie que vous distribuez ?
Alors l'énergie est produite par différents fournisseurs, hein, différentes personnes. Ça peut être par les centrales nucléaires, des centrales thermiques, par des centrales hydrauliques, ou voire même des énergies renouvelables comme des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques.
Est-ce qu'il y a une part, j'allais dire, de plus en plus importante de ce qui est produit par des particuliers, par exemple des panneaux solaires, etc., qui sont redistribués sur le réseau ?
Aujourd'hui, je n'aurai pas de pourcentage à vous donner, mais en effet, de plus en plus aujourd'hui, on accueille l'énergie qui est produite par des panneaux photovoltaïques de particuliers ou par des éoliennes qu'on réinjecte dans le réseau, ce qui nous permet de redistribuer cette énergie produite de façon verte vers nos clients.
Est-ce que tous les câbles électriques qu'on voit dans le ciel, enfin sur les routes et tout, c'est votre réseau ?
Enfin, principalement, on va dire que c'est notre réseau. Alors, il y a différents réseaux. Nous, on s'occupe de l'électricité. Mais sur les poteaux, des fois, on peut y voir aussi du réseau télécom, fibre ou même du réseau d'éclairage public.
Est-ce que ce réseau a de plus en plus l'idée d'être enterré pour éviter les câbles apparents dans certains lieux intéressants pour l'esthétique, par exemple ?
Alors dans les grandes villes, aujourd'hui quand on construit du nouveau réseau qui n'était pas déjà existant, on utilise une technique souterraine.
Et il y a des gens qui peuvent éventuellement demander à ce que ce qu'il y a devant eux, ça disparaisse ?
Oui, tout à fait. On peut demander à faire mettre en discrétion, on va dire, le réseau qui est devant eux. Après, ça fait partie d'un devis qu'on fera au client pour mettre le réseau qui est en aérien, en souterrain, tout à fait.
Bon, le client peut être une collectivité, bien sûr.
Le client peut être une collectivité, à savoir que les collectivités peuvent elles aussi organiser leurs propres travaux pour enfouir ou pour renouveler leur réseau de leur ville.
Quels sont les grands défis auxquels vous êtes confrontés par rapport à la transition écologique, par exemple ?
La transition écologique, aujourd'hui, elle touche notamment les véhicules électriques. Donc, pour recharger une voiture électrique, il faut des bornes. Donc, forcément, notre réseau doit être adapté et doit également pouvoir accueillir tous les véhicules qui ont besoin d'être rechargés.
Est-ce que tout ça, c'est concerté ? Est-ce que tout le monde est en phase ? Est-ce que ça fonctionne bien ?
C'est-à-dire tout le monde est en phase ?
Ben, les acteurs, enfin ceux qui sont responsables, par exemple, de la production des voitures, les vendeurs de voitures, les points où on peut s'alimenter pour brancher sa voiture, et puis votre réseau entre le privé et le public, quoi.
Alors, je ne sais pas exactement si tout le monde est concerté, mais en tout cas, on est très à l'écoute de nos clients. Je pense notamment à des particuliers ou des magasins qui pourraient demander des bornes électriques. Et on travaille étroitement également avec les collectivités locales qui ont eux aussi des projets d'alimentation de bornes électriques. Donc forcément, on essaye de travailler étroitement avec tout le monde.
Donc les bornes électriques que vous déposez, enfin que vous posez, elles sont dans le domaine du public ou bien dans des résidences, par exemple des immeubles, des cours d'immeubles, c'est possible aussi ?
Alors aujourd'hui, on pose du réseau un peu partout et pour aider à la transition écologique, énergétique surtout, pour aider les gens à alimenter leurs voitures même dans des immeubles, nous avons des projets pour aider les bailleurs à alimenter des places de parking avec des bornes électriques.
Et au final, sont les bailleurs qui payent ou ceux qui se rangent sur les prises ?
Alors là, vous posez une question où je ne pourrais peut-être pas forcément vous répondre. Hein. Je n'ai pas toutes les connaissances sur la partie commerciale, je suis plus sur la partie technique. Donc après, qui paye quoi ? Je sais qu'on aide en tout cas un maximum les bailleurs sociaux et les bailleurs en général pour les aider à équiper leur parking. Donc je suppose qu'il doit y avoir aussi une partie financière qui est prise en compte par Enedis.
Est-ce qu'il y a des spécificités des Hauts-de-France ? Par exemple, on a Gravelines qui est pas loin. Est-ce que vous distribuez ce qui en sort de cette centrale ? Est-ce que vous êtes concerné par la nouvelle implantation d'une nouvelle centrale ? Comment vous gérez tout ça ?
Alors Enedis, c'est le gestionnaire de réseau. Donc on n'a pas trop de liens avec tout ce qui est centrale électrique. Ça fait partie du groupe EDF. On fait partie du groupe EDF, mais on distingue de bien la part distribution de la part création d'énergie. Ça fait partie du code de bonne conduite d'Enedis d'alimenter tous nos clients, quel que soit leur fournisseur d'énergie. Donc on n'a pas trop d'impact sur le et de lien avec la construction des nouvelles centrales nucléaires ou autres.
Donc Enedis, c'est une des sociétés d'EDF.
Tout à fait. Enedis fait partie du groupe EDF. C'est la part distribution d'EDF.
On peut peut-être rappeler le nom des autres entreprises.
Alors, il y en a plusieurs dans le groupe EDF, hein, je ne les connais pas toutes, mais vous avez Dalkia, vous avez qui fait partie du groupe EDF également, Enedis, il y en a certainement encore d'autres, mais là, comme ça, je ne pourrais pas toutes vous les citer.
Au niveau européen, vous avez une taille qui est importante et avec aussi des distributions qui se font vers des pays frontaliers, par exemple.
La distribution, côté distribution, je ne suis pas sûr. On essaye de rester local, même si on est ouvert à l'entraide européenne, hein, notamment sur des... je pense à l'Irlande, récemment, qui a été frappée par une tempête. On est venu en aide chez eux pour essayer de remonter le réseau, de réalimenter leurs clients.
Donc, pendant la période de difficulté liée au Covid, plus après la guerre en Ukraine... on a été fortement impacté sur les prix. Pour autant, on a réussi à être encore alimenté. Je parle des immeubles des particuliers. Comment ça se met en perspective? Est-ce que c'est géré? Est-ce que c'est compensé? Est-ce que c'est réglé?
Alors là, c'est une partie EDF, hein, je pense. Ça regardait pas trop Enedis. L'énergie de mémoire, c'était par rapport à des maintenances de centrales. Donc nous, on a fait notre travail, on a réussi à trouver des plans d'action s'il le fallait pour essayer de trouver des solutions pour alimenter tout le monde. Et on voit que notre réseau est costaud et qu'on a continué à alimenter tous nos clients avec une qualité de fourniture bonne, malgré des petits pépins qu'on a pu entendre, oui, en effet, ces dernières années. Mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant et que le réseau est de qualité et que notre qualité de fourniture est garantie pour nos clients.
Est-ce que vos perspectives de transition écologique, vos objectifs, nécessitent de nouveaux personnels formés à ça? Est-ce que c'est compliqué?
Alors aujourd'hui, on est en plein recrutement. On cherche énormément de monde puisque... on va avoir un impact forcément avec la transition énergétique et Enedis va avoir un rôle important. Donc en effet, on est en train de recruter par le biais d'embauche externe, par aussi le biais d'alternance pour pouvoir former les techniciens et les agents d'Enedis de demain.
Donc ça, c'est vous qui assurez la formation ou vous pouvez compter aussi sur des lycées professionnels où vous intervenez? Comment?
Ben, grâce à l'alternance, on peut intervenir auprès de lycées professionnels pour avoir des jeunes que nous formons au métier d'Enedis et qui suivent leur cursus scolaire avec un lycée professionnel. On a notamment l'école des réseaux, c'est un partenariat avec des écoles. Avec qui on travaille en collaboration pour pouvoir former les jeunes de demain pour assurer la transition énergétique et écologique. Oui, en Hauts-de-France, on a plusieurs écoles avec qui nous travaillons.
Est-ce que pour les personnels qui sont déjà en poste, hein, ça va être compliqué pour eux de s'adapter à de nouveaux métiers? Lesquels vont être le plus impactés?
Je pense que tous les services vont avoir un impact, forcément. Maintenant, s'adapter, on l'a toujours fait depuis toujours. Enedis innove, Enedis est tout en perpétuelle recherche d'amélioration. Et on va réussir à avoir ce tournant, je pense, facilement, grâce à l'investissement de tous les agents. Et on va devoir s'adapter, forcément, et on est prêt à le faire.
Est-ce que vous pensez que les prérequis des gens que vous employez vont être importants pour justement gérer, s'adapter à des évolutions qui risquent d'être encore davantage importantes à l'avenir? Qu'est-ce qu'il vous faut comme profil?
Qu'est-ce qu'il nous faut comme profil? Eh bien, déjà, il faut des gens motivés. Ça, c'est l'un des premières choses, je trouve, importantes pour réussir ces défis et pour aider le Français et avoir cet amour du service public que chez Enedis, on a. Et après, des formations techniques mais aussi diverses, puisque on a des services ressources humaines, on a des ressources, enfin des services informatiques, on a toutes sortes de services. Donc les métiers transverses sont aussi importants pour relever ces défis.
Voilà, l'émission Quoi de neuf se termine. On se retrouve la semaine prochaine, 16h-18h. Dans quelques instants, enfin 18h30, vous retrouverez le magazine L'heure de le mettre. Sur Radio Campus, je vous souhaite une très très belle soirée à notre écoute.